Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième lettre de Pierre. Nous allons relire le chapitre 3 en entier. De Pierre, chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermis tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Et ce matin, nous allons plus particulièrement nous concentrer sur les versets 10 à 14. Mais avant de venir à ces versets, nous devons garder, avoir en mémoire que Pierre traite, comme nous l'avons vu, du problème des faux docteurs, comme il le dit au verset 4. Ces faux docteurs qui disent « Où est la promesse de son avènement, du retour de Christ ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Nous avons vu qu'au début du chapitre 2, Pierre avait déjà donné cet avertissement en disant qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ces faux docteurs, nous avons vu, rejetaient le retour de Christ. Et une des raisons, ils le disent au verset 4, c'est que le retour de Christ implique la destruction de ce monde. Mais tout ça ne s'accorde pas avec leur vision du monde. Ils disent, rien n'a changé depuis la création, depuis le commencement. Tout est stable, les saisons se suivent et se répètent. Pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait et mettre un terme à tout cela. Mais Pierre condamne ces faux docteurs et il leur parle du retour de Christ. Mais il n'aborde qu'un sujet ou qu'un aspect de ce retour. Et il parle surtout des conséquences du retour de Christ sur ce monde. La vision de Pierre est simple ici. Il parle du feu qui détruira le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve pour donner place à une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Pierre ne va pas passer du temps à montrer comment cela se rapporte au retour physique de Christ dans la gloire. Il ne va pas montrer comment cela se rapporte avec le jugement ou avec l'entrée du peuple de Dieu dans la gloire, dans la félicité. Mais, et c'est le premier point, Pierre écrit et il dit des choses, il dit ce que les faux docteurs doivent entendre et ce qu'ils ont besoin d'entendre. Pierre se satisfait, si on peut dire, de cette image simpliste, de cette vision simple et pourtant très forte, très parlante des conséquences du retour de Christ. Et il le fait parce qu'il s'adresse à un problème particulier. Ces faux docteurs avaient besoin d'entendre ces choses. Et les jeunes croyants avaient besoin d'être gardés, d'être préservés des erreurs de ces faux docteurs. Nous avons déjà vu que ces faux docteurs étaient attachés à ce monde. On pourrait dire ce que Jude dit dans sa lettre au verset 4. « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons vu au chapitre 2, en particulier, par exemple, qu'ils promettent la liberté, verset 19, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Ils se sont livrés à la débauche, chapitre 2, verset 2, plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Même chose au verset 14 de ce chapitre 2, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ils recherchent la richesse, ils recherchent l'honneur, ils méprisent les autorités. L'autorité, nous avions vu ça à la fin du verset 10 de ce chapitre 2. Ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Ces personnes, donc, étaient encore attachées à ce monde et pour couronner le tout, donc, ils reniaient le retour du Seigneur Jésus-Christ. Cela leur permettait aussi de ne pas penser au jugement, de ne pas penser qu'un jour ils devraient rendre compte à Dieu. Et il est donc logique pour Pierre de donner cette réponse, de ne parler que de cet aspect du retour de Christ. Parlons des conséquences du retour de Christ sur ce monde. Et on pourrait résumer en cette phrase, « Ce que vous avez aimé va être détruit. » Tout ce que vous avez aimé va être détruit. Et bien sûr, il y a une exhortation qui suit et que nous verrons un peu plus tard. C'est que ne vous abandonnez pas au plaisir de ce monde, à la recherche de l'honneur, des hommes, parce que tout cela est appelé à disparaître. Si Pierre avait donné une image plus élargie, avec tous les détails, avec tous les déroulements liés au retour de Christ, son argumentation n'aurait pas été aussi aiguisée, aussi pointue. Et là, nous avons quelque part une leçon pour nous. Il est tout à fait légitime de chercher à comprendre les événements entourant le retour du Seigneur Jésus-Christ dans la gloire, pourvu qu'on ne se perde pas dans des interprétations fantaisistes. Mais nous devons réaliser que lorsque les auteurs du Nouveau Testament ont cherché à nous encourager, à nous exhorter, ils n'ont pris qu'un aspect, ou deux éventuellement, liés au retour de Christ, pour nous encourager à attendre le jour de son retour. C'est ce que Pierre fait ici, et c'est ce que nous devrions faire. C'est pour Pierre donc écrit, et il ne mentionne que ce que ces faux docteurs avaient besoin d'entendre, que ce monde qu'ils aiment tant et auquel ils sont tant attachés va disparaître. Un jour, ce monde ne sera plus, il sera détruit. Mais, deuxièmement, regardons donc de plus près ce que Pierre dit concernant le jour du Seigneur, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a mis ensemble les deux choses, parlant de son retour et parlant du voleur. Nous avons cela en Matthieu 24, versets 42 à 44. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et c'est un langage que l'apôtre Paul a repris en 1 Thessaloniciens 5, les versets 2 à 4. « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Et on peut faire ressortir trois choses qui sont impliquées dans cette expression de « jour du Seigneur ». Tout d'abord, la chose logique, c'est le retour de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ revient physiquement dans la gloire. La deuxième chose, c'est que c'est soudain, c'est une surprise, c'est destructeur pour les incroyants, comme le voleur l'est quand il vient dans une demeure. La troisième chose, c'est que ce jour apportera la délivrance et le salut pour ceux qui sont déjà éveillés, pour ceux qui appartiennent déjà, qui servent déjà le Maître. Pour eux sera la délivrance. Mais Pierre va plus loin. Il précise que la destruction de ce monde sera par le feu. Verset 10. « En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Et il le dira au verset 12. « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. » Pourquoi cette expression « jour du Seigneur » ou il utilise « jour de Dieu » au verset 12. Dans l'Ancien Testament, cette expression « jour de Dieu »,« jour de l'Éternel », faisait référence à un moment où Dieu allait défendre son honneur, allait juger les impies, allait ramener son peuple dans un royaume de justice et de paix. Acte 2, par exemple, Pierre cite le prophète Joël, acte 2, verset 20, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. » Le prophète Sophonie utilise un langage similaire en Sophonie 1, verset 14 et suivant. Le jour grand, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel, parce que par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. » Et le langage de Pierre n'est pas différent que le langage des prophètes. Il ne dit rien de nouveau. Dieu avait déjà parlé de sa colère, de son jugement à venir, qui allait détruire tous les impies, qui allait détruire ce monde qu'ils aiment tant. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pierre annonce ce jour donc, du Seigneur qui implique le jugement des impies et la destruction de ce monde par le feu. Mais la deuxième chose, Pierre parle aussi, s'il parle de destruction, il parle aussi d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Verset 13. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et ça peut surprendre que Dieu détruise un monde qu'il a créé. Et à la fin de la création, il a regardé tout ce qu'il avait fait. Il avait dit que tout était bon, que tout était très bon. Mais l'apôtre Paul nous rappelle que l'homme et la création ont été soumis à la vanité. En Romains 8, versets 20 et 21. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Paul ne dit pas comment cette transformation va se faire. Et certains ont imaginé toutes sortes de choses, mais nous n'allons pas nous y attarder. Mais Pierre parle, il se saisit de cette promesse. Il y a et il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est ce que nous trouvons en Ésaïe 65 et au verset 17, nous retrouvons ce langage. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Et Pierre, quand Pierre souligne que cette nouvelle terre sera habitée par la justice, Il implique que la destruction de la terre que nous connaissons, de ce monde que nous connaissons, la destruction trouve sa raison dans l'injustice de l'homme, de ceux qui se détournent de la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Mais dans ces versets, Pierre ne parle pas ou ne met pas l'accent sur le fait que les incroyants seront jugés. Il l'avait déjà répété et redit à plusieurs reprises au chapitre 2. L'accent ici n'est pas sur les êtres humains, mais plutôt sur la terre et les œuvres qu'elle renferme. Et comme Pierre fait le lien au verset 11, puisque tout cela est en voie de dissolution, il nous dit que cela devrait être une motivation dans la vie chrétienne, verset 11, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Et effectivement, cela devrait être une motivation pour nous. La plupart des gens, la plupart de personnes que l'on côtoie, cherchent ou essayent de donner un sens à leur vie en bâtissant quelque chose qui ne va pas disparaître ou qui va leur survivre. On essaye de surmonter ce sentiment d'être limité dans le temps, d'avoir une durée limitée dans le temps, en produisant quelque chose qui va nous survivre. Certains, par exemple, vont bâtir un patrimoine. Et lorsqu'ils regardent leurs propriétés, lorsqu'ils regardent leur portefeuille ou leur compte en banque, ils vont éprouver un sentiment de puissance, un sentiment de succès. D'autres vont construire une réputation professionnelle. Et eux, ils auront un sentiment de réussite et de succès quand ils vont regarder leurs responsabilités qu'ils ont maintenant. Et quand ils vont voir le nombre de personnes qui les prennent comme exemple ou qui les admirent, d'autres personnes vont se lancer dans l'expression artistique et produire des œuvres. D'autres simplement vont construire des collections et avoir ce sentiment de succès quand ils vont devenir des références dans leur monde. Ils vont être les plus gros collectionneurs, avoir la plus grande collection de timbres ou d'objets venant de tel endroit ou de tel artiste, etc. Les faux docteurs, nous l'avons vu, eux, se remplissaient les poches. Ils méprisaient l'autorité. Ils s'étaient forgé une réputation de pouvoir interpréter les difficultés dans les lettres de Paul. Et ils se sont donnés à l'immoralité. Mais Pierre dit, tout cela va être détruit. Tout cela est amené à ne plus exister, à être détruit par le feu. Tout cela, la terre et les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Elles ont une fin. Et l'implication donc du verset 11, c'est que la seule chose qui va survivre, c'est une vie qui est une vie sainte, une vie qui est la vie de Christ, qui produit dans ses enfants des œuvres de justice et de sainteté. La vie des croyants qui appartiennent, qui ont été sanctifiés, qui ont été séparés de ce monde et qui appartiennent à Christ. Et puis au verset 12, Pierre dit « Hâtez, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. » Alors que nous vivons dans la foi au Seigneur Jésus-Christ et que nous marchons dans la sainteté, nous hâterons ce retour. Ce n'est pas dans le sens que nous allons le faire venir plus vite, parce que nous savons que Dieu a fixé un jour, depuis toujours, il a fixé le jour du retour de Christ. Mais de notre point de vue, quand nous annonçons l'Évangile, quand nous annonçons le message de repentance et de foi en Jésus-Christ, quand nous vivons et que nous sommes des lumières dans ce monde de ténèbres, et quand nous faisons connaître cette grâce que Dieu nous a manifestée en Christ, afin de toucher des brebis qui sont encore, qui ne sont pas encore dans la bergerie, nous hâtons ce jour, puisque le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas avant que la dernière brebis ne soit entrée dans la bergerie. Il use, verset 9, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et donc, cela nous amène à la conclusion, versets 13 et 14. Quand Pierre, ici, ne dit pas « Regardez tout ce que vous allez perdre », mais plutôt « Regardez ce que vous allez gagner ». Si tout ce monde et les œuvres qu'elle renferme sont appelés à être détruits, sont appelés à être consumés, il dit, verset 13, « Mais nous attendons ». Nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, rappelez-vous cette expression qui lie ce qui précède avec ce qui suit, c'est une conséquence, voilà l'implication. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. On a un parallèle avec ce que Jean écrit dans sa première lettre au chapitre 1er et au verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Nous sommes mutuellement en communion, comme il le dit ici lui-même. Appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochables, dans la paix. Dans la paix, nous vivons dans la paix. Nous vivons en communion les uns avec les autres. Il n'y a pas de division, nous sommes unis en Christ. Et c'est quand Pierre parle d'être trouvés par lui, sans tache et irréprochables, Jean le dira d'une autre manière, il parle du sang de Jésus, son Fils, qui nous purifie de tout péché. Mais, comme Jean le dit dans ce verset, nous marchons dans la lumière comme lui-même est la lumière. Et c'est le même langage de l'apôtre Pierre ici. Appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochables, dans la paix. Et où allons-nous trouver ? Où allons-nous trouver la force de marcher dans la lumière, la force de nous appliquer à être trouvés par lui, sans tache et irréprochables, dans la lumière, dans la paix ? Où allons-nous trouver la force pour vivre cette vie de sainteté, pour rechercher la justice dans un monde d'injustice, pour rechercher la pureté dans un monde de débauche. La réponse, nous l'avons au premier chapitre et au verset 3 et 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons toutes choses. Dieu nous a donné toutes choses en Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux spirituels. Notre force n'est pas en nous-mêmes, mais elle est en Christ et en tout ce que nous avons en lui. Nous regardons avec impatience cette promesse de la nouvelle terre, de nouveaux cieux où la justice habitera. Et nous attendons, nous comptons, nous vivons dans cette attente, avec non pas en comptant sur nos propres forces, mais dans une dépendance totale de Christ en qui nous avons tout. Ne perdons pas de vue donc, contrairement à ce que ce monde veut nous faire croire ou à ce que certains faux docteurs veulent nous faire croire comme ils l'ont essayé au temps de Pierre. Ce monde dans lequel nous sommes est appelé à être détruit. Ne perdons pas cela de vue. Nous n'appartenons plus à ce monde. Nous sommes membres, citoyens des cieux, co-héritiers de Christ. Marchons donc, comme nous exhorte Pierre, marchons donc dans la sainteté, soyons des lumières, attendons avec impatience ce jour du retour du Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Mais faisons-le non pas en comptant sur nous-mêmes, mais en comptant sur Jésus-Christ, notre Sauveur, et sur toutes les bénédictions, tous les privilèges que nous avons en lui. Que Dieu nous aide à vivre cela, donc pour sa gloire. Amen.